Bonjour, bienvenue au balado Le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval et je suis intervenante sociale à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, je vous invite à visiter notre site web societéalzheimerdequebec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la Société Alzheimer de votre région. Merci et bonne écoute! Alors, bonjour! Bonjour. Allô Eva, merci beaucoup de premièrement d'être présente avec nous ici aujourd'hui. Eva, toi tu es une neuropsychologue. Oui, qu'est-ce que ça fait une neuropsychologue en fait?
Une neuropsychologue, ce que ça fait, en fait, c'est que notre spécialité à nous, c'est d'évaluer la cognition. Hein? La cognition, c'est les différentes fonctions de notre cerveau, comme la mémoire, le langage, la concentration. Mm-hmm. Donc, c'est principalement ça, notre spécialité, en intégrant en même temps le côté plus psycho, hein? Le côté comportement, émotion, affectif. Donc, je dirais que c'est surtout ça, notre travail.
OK. Puis, dans le fond, toi, tu es neuropsy du côté du... CIUSSS Chaudière-Appalaches?
Oui, du CIUSSS Chaudière-Appalaches. Moi, en fait, j'ai deux chapeaux. Oui. J'ai un chapeau, en fait, je suis sur une équipe, on appelle ça une équipe ambulatoire de gériatrie, psychogériatrie, donc avec des médecins, une gérontopsychiatre, des médecins spécialisés en gériatrie. Okay. Puis, mon autre chapeau, c'est en psychiatrie. Donc, en psychiatrie, je vois à la fois des adultes, donc des jeunes adultes, 18, 99 ans, mais je vois aussi des patients en gérontopsychiatrie. Donc, on parle de patients qui ont des troubles psychiatriques, mais vieillissants.
OK. Hein?
Fait que malgré tout ça, c'est la majeure de mon travail, c'est quand même avec les personnes âgées, mais je vois aussi des jeunes, par exemple, des premiers épisodes psychotiques, puis ce genre de patients-là.
Ah, d'accord, parfait. C'est intéressant parce qu'on va peut-être éventuellement en parler là, de un peu la comorbidité, si on veut, ou l'assemblement de la santé mentale versus les troubles neurocognitifs, mais d'abord, j'aimerais que tu puisses te présenter, savoir ton parcours, qu'est-ce que c'est en tant que neuropsychologue?
Oui. Neuropsy, dans le fond, pour devenir neuropsychologue, on fait nos études en psychologie. Mm-hmm. Moi, j'ai fait mon baccalauréat en psychologie ici à l'Université Laval. Puis ensuite de ça, en psychologie, maintenant, c'est un doctorat qu'on nous demande pour avoir le permis de pratique. Mais on n'a pas la maîtrise nécessairement. Donc, moi, je suis allée faire ce qu'on appelle un doctorat clinique de 4 à 5 ans. Puis mon doctorat, dans le fond, c'est là où on choisit la spécialité qu'est la neuropsy. Donc, j'étais au doctorat en psychologie, sauf que moi, j'ai pris la concentration de neuropsychologie clinique, ce qui fait en sorte que moi, au lieu d'avoir des cours en psychothérapie, par exemple, comme on entend chez les psychologues, bien, j'avais des cours sur le fonctionnement du cerveau, sur l'évaluation des fonctions cognitives. Puis j'ai fait mes stages tout en neuropsychologie là, par la suite. Dans le fond, durant mon doctorat, j'ai fait mes stages majoritairement auprès de la clientèle âgée. Donc, j'en ai fait dans les services gériatriques spécialisés, en gérontopsychiatrie aussi, là, à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Puis, dans nos doctorats cliniques, malgré que c'est un doctorat clinique, on nous demande de faire un projet de recherche. Donc, j'étais dans un laboratoire de neuropsychologie du vieillissement.
OK.
Mon projet de recherche portait aussi sur la population âgée. Là.
Donc, tu es vraiment spécialisée en tout ce qui est gériatrie, gérontologie.
Oui.
Pourquoi tu as décidé de choisir cette branche-là?
Ça va avoir l'air drôle, mais durant mes études, j'ai été agente administrative dans les hôpitaux.
OK.
Puis on m'avait mis au demi-chiffre de soir de l'UCDG du CHUL, donc l'unité de courte durée gériatrique. Mm-hmm. Puis tu sais, mon travail était 100% administratif. Là. Moi, je gérais la paperasse des dossiers, je répondais au téléphone. Puis je me suis rendu compte en étant à l'UCDG que j'aimais vraiment cette clientèle-là. Puis c'est comme un peu ça qui a piqué mon intérêt. Puis une professeure à l'Université Laval qui a été ma directrice de recherche par la suite, qui était passionnée de neuropsy gériatrique, puis qui m'a transmis sa passion. Fait que je dirais que c'est un peu comme ça, mais c'est un peu par hasard que je me suis rendu compte que j'avais une facilité avec cette population-là.
OK. Ouais. Au niveau de l'échange, puis au niveau de...
Oui, je trouve pas ça difficile. Je trouve que... J'ai une facilité, je ne sais pas comment l'expliquer. Hein. Il y en a que c'est avec les enfants, moi c'est avec les personnes âgées. Puis c'est comme tout par hasard que j'ai découvert ça avec un emploi qui n'avait pas vraiment de lien avec ça au final. C'est un emploi administratif, mais fait que c'est de là que c'est parti.
C'est fou comment que la passion d'un simple professeur peut nous amener à choisir où on va aller plus tard.
Vraiment,
c'est extrêmement important. Mais en fait, là, toi, tu es neuropsychologue, il existe des neurologues. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent un peu la différence. Pourquoi il y en a qui voient des neuropsies? Pourquoi d'autres n'ont pas besoin de voir des neuropsies? Pourquoi il y en a qui voient des neurologues? C'est quoi la différence principale entre les deux?
Bien, la principale, c'est que les neurologues, c'est des médecins. Fait que c'est une spécialité de la médecine. Donc, ils prescrivent, ils font des diagnostics. Alors que neuropsie, comme je disais, on est une spécialité de la psychologie. Okay. C'est sûr qu'en neuropsie, on a quand même un bon... je dirais qu'on a quand même des bonnes connaissances, je dirais, au niveau neurologique. Hein, ça vient avec. Oui. C'est le même cerveau. Ouais. fait que par rapport à mes collègues en psycho, j'ai eu probablement plus de cours de neurobiologie, de comment fonctionne le cerveau dans ma spécialité. Mais je demeure que je ne suis pas médecin. Hein, donc, je ne prescris pas les médicaments.
Okay.
Je ne peux pas prescrire non plus à ce jour des examens d'imagerie cérébrale, par exemple.
Oui, je comprends.
Donc, la raison pourquoi on verrait un neurologue versus un neuropsychologue, ben, ça dépend du besoin. Je dirais que les neuropsychologues, on travaille souvent en équipe avec les médecins. Donc, moi, dans mon cas, avec une gérontopsychiatre, par exemple, avec des médecins spécialisés en gériatrie, c'est possible. Moi, dans mon cas, c'est pas avec des neurologues, mais il y a beaucoup de neuropsychologues qui travaillent avec des neurologues. Donc, tu sais, les neurologues, ils vont faire plus l'examen physique, le fameux examen neuro, regarder les forces, regarder les faiblesses, les réflexes, pardon. Ils vont regarder plus au niveau physique, alors qu'en neuropsy, ben, c'est plus au niveau cognitif qu'on va regarder en détail. Donc, souvent, quand un patient est rendu à être référent en neuropsy, c'est que c'est compliqué. Hein, c'est rarement parce que c'est simple, au sens où les neuropsychologues, on est souvent consultants dans le dossier pour aider à départager, par exemple, entre deux types de troubles neurocognitifs. Dans mon cas, à moi, pour départager, est-ce que c'est une maladie psychiatrique ou c'est un trouble neurocognitif qui est en train de s'installer? Souvent, quand il y a des facteurs confondants, par exemple, quelqu'un qui a un historique d'abus de consommation d'alcool, ça devient difficile, des fois, de faire la différence entre l'effet de l'alcool et l'effet d'une maladie neurodégénérative. Donc, souvent, on est interpellé dans ces dossiers-là ou encore chez les gens très scolarisés ou peu scolarisés parce que les tests de dépistage usuels, dont certains ont peut-être entendu parler, hein, des tests que les médecins font dans les bureaux ou les infirmières, ben, sont pas assez bons pour aller détecter ces deux spectres-là. Hein,
les
deux,
sont pas assez précis pour
exactement,
détecter les deux.
Okay. Exactement. Fait que je dirais que c'est ça, là, les différences. Puis, tu sais, évidemment, dans notre façon de faire notre travail, c'est très différent. Là.
C'est intéressant parce que, ben, en fait, aujourd'hui, pourquoi tu es ici? Pourquoi toi? En fait, pourquoi la neuropsychologue? La neuropsychologie, c'est vraiment parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de la société Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que nous, on vient aussi intervenir auprès des gens qui ont d'autres troubles neurocognitifs. Puis c'est quoi la différence entre les autres troubles neurocognitifs et tout? Donc, aujourd'hui, on va mettre un peu de côté la maladie d'Alzheimer comme telle. Puis tu vas vraiment être là pour nous parler, ben, en fait, mettre en lumière un peu les autres troubles neurocognitifs, les différencier, etc., au terme plus de symptomatiques, au niveau comportemental, etc. Ça va être ça qui va être intéressant. On entend souvent parler de la maladie. On a aussi trois autres troubles qu'on entend un petit peu plus parler, mais encore là, c'est pas énorme. Donc, il y a la maladie à Cordelewy, premièrement. On va commencer par un. On va essayer de décortiquer là, un après l'autre. La maladie à Cordelewy, qu'est-ce que c'est comme tel?
Bien, la maladie à Cordelewy, c'est une autre pathologie neurodégénérative, hein, une autre maladie neurodégénérative, un peu comme la maladie d'Alzheimer l'est. C'est juste que c'est pas la même maladie dans le cerveau, c'est pas la même pathologie. Donc, si je peux me permettre, peut-être que je vais reculer un peu, mais un trouble neurocognitif, dans le fond.
Oui.
Tu sais, le trouble neurocognitif, c'est comme un peu quand on dit quelqu'un a un syndrome grippal. Il mouche, il tousse, il fait de la fièvre, mais on sait pas pourquoi. Ça peut être la COVID, ça peut être l'influenza. Bien, c'est la même chose avec un trouble neurocognitif. Un trouble neurocognitif, c'est une perte des fonctions cognitives, une dégradation, une détérioration qui va, à un certain moment, probablement toucher le fonctionnement de la personne. Hein? Donc, quand on parle que l'autonomie de la personne, hein, la capacité à faire ses activités dans la vie de tous les jours est atteinte, là, on tombe dans ce qu'on appelle le trouble neurocognitif majeur.
Ouais.
Puis quand on dit qu'il y a des troubles cognitifs, une détérioration cognitive, mais que pour l'instant, l'autonomie est bien préservée, là, on parle d'un trouble neurocognitif mineur. Donc ça, c'est comme nos grands syndromes, puis un trouble neurocognitif peut être dû à plusieurs pathologies, comme un syndrome grippal peut être dû à plusieurs types de virus. Donc, la maladie d'Alzheimer, celle qu'on entend le plus parler, celle pour laquelle les gens viennent vous voir la majorité du temps, c'est une des pathologies qui peut donner un trouble neurocognitif.
C'est un peu comme une grande famille, en fait. Une grande famille de... On parlait... Il y en avait un autre, un pharmacien qui nous avait comparé un peu... qui avait comparé ça un peu au cancer. Donc, le cancer, c'est un peu comme une grande famille, au même titre que tu compares au... au rhume et aux grippes, mais les cancers, il y a un cancer du cerveau, cancer du poumon, etc. Donc, c'est un peu, c'est ça, une grande famille dont la maladie d'Alzheimer fait partie,
Exactement. C'est la grande famille des troubles cognitifs en vieillissant, généralement. Quand on parle de maladie neurodégénérative, fait que c'est la grande famille de ce qui donne des troubles cognitifs, ce qui va donner une perte de l'autonomie. Mm-hmm. Mais la raison sous-jacente à ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, on a la maladie d'Alzheimer, puis on a la maladie à Cordelewy. Donc, en fait, ce qui va venir changer, c'est la pathologie vraiment dans le cerveau. C'est quoi la maladie qui atteint les neurones? Dans les deux cas, c'est la pathologie va venir faire en sorte que nos neurones vont finir par mourir, ce qu'on appelle l'atrophie cérébrale. Et évidemment, quand nos neurones se détériorent, bien, ça a des impacts cognitifs, ça a des impacts aussi émotionnels et comportementaux, parce que c'est le même cerveau. Ouais. C'est le même cerveau qui est à l'origine de tout ça. Donc, la maladie à Cordelewy, je dirais que c'est un type de c'est un trouble neurocognitif dont la présentation clinique est différente quand même de la maladie d'Alzheimer, au sens où on a à la fois, des troubles cognitifs, mais en général, ce n'est pas tout à fait les mêmes au début de la maladie que la maladie d'Alzheimer. Ça va se présenter plus par un trouble au niveau des fonctions exécutives.
Okay.
Les fonctions exécutives, c'est un petit peu abstrait, mais c'est super important. Fait que je vais me permettre de le définir, c'est quoi. Les fonctions exécutives, c'est vraiment nos fonctions qui nous permettent de nous adapter dans la vie de tous les jours à ce qui est nouveau, à ce qui est complexe, à ce qui est imprévu. Ça arrive tous les jours, des choses comme ça. Fait que moi, des fois, je dis que les fonctions exécutives, c'est un peu comme le chef d'orchestre de notre fonctionnement cognitif ou le contremaître du chantier. Là, on peut choisir l'image qu'on veut, mais sont très importantes parce qu'ils gèrent un peu nos autres fonctions cognitives. Donc dans la maladie à Cordelewy, on a une atteinte des fonctions exécutives qui va faire en sorte que les gens ont plus de misère, par exemple, à s'organiser au quotidien, à planifier. On va avoir aussi le plus de difficultés dans la prise de décision, le jugement. On est dans ces fonctions-là qui sont importantes pour s'adapter à la vie de tous les jours.
Ouais.
On peut avoir des difficultés de mémoire, mais c'est moins flagrant que dans la maladie d'Alzheimer au départ. Mm-hmm. Les difficultés de mémoire, ils sont plus d'ordre, justement, de la misère à organiser nos souvenirs puis à les rappeler.
Okay.
Mais en général, au départ, là, parce que, bon, éventuellement, tous les troubles neurocognitifs majeurs vont mener
à peu près à la même...
Exactement. Mais au départ, c'est moins la mémoire qui est à l'avant-plan. C'est vraiment plus les fonctions exécutives pour ce qui est cognitif.
Mm-hmm.
Et au niveau attentionnel aussi, parce que dans les critères de la maladie à Cordelewy, on a une fluctuation. Sont reconnus pour une fluctuation de la cognition puis du niveau d'alerte. Donc, des fois, les familles vont nous dire... des fois, c'est une bonne journée, là, il est tout là, puis des fois, il devient plus confus, puis ça arrive comme ça, fait qu'ils vont fluctuer plus.
Okay.
Puis ça fait partie du critère de la maladie.
Ah ouais, OK.
Donc, c'est sûr qu'au plan attentionnel, bien évidemment, ça dépend, tu tombes sur quelle journée, mais tu sais, dans mes tâches à moi, ça peut faire en sorte qu'ils ne sont pas du tout concentrés, ils ne sont pas alertes, ils ne sont pas capables de faire les tâches, mais je pourrais les voir 6 heures plus tard, puis ils soient capables d'en faire un petit peu plus. Fait que ça fait partie d'un des critères avec les troubles cognitifs. Puis, l'autre critère aussi, c'est la présence d'hallucinations visuelles, qui sont des hallucinations bien formées, détaillées, qui reviennent, qui sont récurrentes. Souvent, je vous dirais typiquement des petits animaux, des enfants, des personnes. C'est assez typique de la maladie.
Je ne savais pas qu'il y avait vraiment un type d'hallucination qui était...
C'est pas coulé dans le béton, mais typiquement, cliniquement, c'est ce qu'on voit. Puis c'est associé au fait que la pathologie vient se loger dans les régions du cerveau plus postérieures, qu'on appelle, où notre cortex, là, mettons, occipital, va traiter l'information visuelle.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est un signe aussi de la maladie. Puis ça peut venir aussi avec des troubles. Les autres troubles cognitifs qu'on reconnaît à la maladie à Cordelewy, c'est les troubles visuo-perceptuels, visuo-spatiaux. Donc, c'est de mal reconnaître les objets dans l'espace, mal comprendre la relation, l'espace entre les objets. Fait que vous comprendrez que si j'ai de la pathologie qui s'installe là, bien, c'est ce qui peut faire en sorte que des fois, ils vont dire « il y a un visage dans le tapis », alors que c'est juste c'est juste, par exemple, un motif du tapis, ouais. mais ils font comme une mauvaise interprétation, une mauvaise perception.
Okay.
Hein? Fait que ça aussi, on peut voir ça dans la maladie à corps de Lewy. Puis, finalement, l'autre symptôme qui est associé à la maladie à corps de Lewy, c'est des symptômes qui ressemblent à la maladie de Parkinson.
Mm-hmm.
Donc, des tremblements, ce qu'on appelle la rigidité, des troubles d'équilibre, des troubles à la marche. Donc, de façon très, très, très... simplifié, on pourrait dire que la maladie à corps de Lewy, c'est comme un mix entre la maladie ouais. d'Alzheimer puis la maladie de Parkinson. C'est un peu plus complexe que ça, mm-hmm. mais mettons qu'on veut le simplifier, on pourrait le dire comme ça, mm-hmm. Parce que les gens vont développer des symptômes moteurs, des symptômes qui ressemblent beaucoup à la maladie de Parkinson avec le décours de la maladie. Fait que je dirais que c'est un peu comme ça qu'elle se manifeste, mm-hmm. la maladie à corps de Lewy.
C'est souvent ce qu'on dit, nous, ben, pour que les gens puissent bien comprendre, en fait, c'est souvent ce qu'on dit que c'est un mix des deux, ouais. des deux troubles. Il y avait un monsieur qui nous avait déjà dit « Moi, j'ai eu le meilleur des deux mondes, le meilleur des deux maladies, si on ouais. veut, en guillemets, là, on s'entend. » C'est une expression, mais c'est ça, j'ai eu un peu de symptômes de la maladie d'Alzheimer et un peu de symptômes ouais. de la maladie de Parkinson. Puis, au niveau des hallucinations, là, une personne qui justement présente des hallucinations, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour contrer ça ou?
C'est sûr que les médecins, encore une fois, sont mieux placés que moi pour la oui. prescription de la médication, mais quand même, je peux parler d'expérience.
De façon globale.
Oui, c'est ça. Les médicaments qu'on utilise dans la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, mm-hmm. peuvent être donnés dans la maladie à corps de Lewy et ça peut parfois aider les hallucinations.
OK, ça, je savais pas.
Puis, bien évidemment, il y a les médicaments qu'on utilise en présence d'hallucinations dans nos autres populations. Hein, mm-hmm. Comme moi, par exemple, je travaille avec des gens qui ont une schizophrénie, qui ont des hallucinations. Par contre, la maladie à corps de Lewy est connue pour que les gens ont une sensibilité à certains types de médicaments.
OK.
Mais tu sais, oui, en général, les médecins ne laisseront pas quelqu'un avec des hallucinations. Ils vont essayer de l'amender, de le traiter. Mais c'est sûr que ça fait comme partie du décours de la maladie. Donc, ouais. Tu sais, il faut comprendre que avec un trouble neurocognitif de type maladie neurodégénérative, une pathologie qui atteint les neurones, bien, mm-hmm. les médicaments, ils jouent sur nos neurones. Fait que moins on a de neurones, plus c'est difficile à traiter. Mais ça, dans les différences qu'on parlait, bien, c'est vraiment nos neurologues, nos gérontopsychiatres, ouais. nos médecins qui vont aller traiter ça. T'sais, moi, ma partie, mm-hmm. c'est pas tellement ça,
non.
mais c'est ce qu'ils vont faire. Là. Mm-hmm. Ils vont essayer, évidemment, de réduire les hallucinations. Parce que, mais je vous dirais que moi, pour les patients que j'ai côtoyés, il y en a souvent que c'était pas... il n'y avait pas de détresse associée aux hallucinations.
Okay.
Contrairement à quelqu'un, par exemple, qui est justement dans un épisode psychotique puis que là, est plus en détresse parce que les hallucinations sont négatives ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai des patients qui disaient que... J'en avais un qui me disait « Ah, le soir, mon bon chum, il vient me voir dans mon salon. » Il voyait un monsieur qui s'assoyait dans son salon.
Okay.
Puis, il n'y avait pas vraiment de détresse par rapport à ça.
Souvent, c'est plus l'aidant qui est mal à l'aise avec ouais. la situation. J'ai une dame que j'ai rencontrée que son conjoint, sur l'heure du souper, il demande souvent à donner de la nourriture à la petite fille qui est à côté de lui.
Petite fille.
Mmh. Oui, c'est une petite fille. Il dit, mais la petite, est-ce qu'elle a mangé? Il s'inquiète beaucoup pour la petite fille à côté de lui. Puis la dame, au début, était très surprise. Puis je pense vraiment que c'est plus une perception du proche aidant qui est difficile, qui est... un peu hors du commun, en fait. Là, ça va au-delà de ce qu'on peut... Puis on a tendance à dire, ben non, il n'y en a pas de petites filles, il n'y en a pas... Donc, après, je pense que d'un coup que le proche aidant s'est un peu habitué à ça, ben tant qu'on voit que la personne n'est pas mal avec ça, il n'y a pas de... il n'y a rien de grave au bout du compte, si on veut.
Non, c'est ça. Puis d'où l'importance d'expliquer que... Évidemment, on ne peut pas dire que c'est normal,
non.
Hein? Mais d'expliquer que ça fait partie du décours de la maladie, mm-hmm. de l'évolution attendue, je pense que ça peut rassurer les gens de savoir, OK, mon conjoint, malheureusement, c'est sa maladie qui fait ça, puis on s'y attend que ça fasse ça, fait que d'où l'importance de l'expliquer.
Ouais.
Hein? Parce que c'est sûr que quelqu'un qui hallucine, on se fait toujours dire, là, quand tu hallucines, c'est pas normal, ça veut dire que tu es malade. Fait que c'est sûr que pour un proche aidant, de voir que son conjoint a une hallucination, ça peut générer de la détresse au proche aidant.
Tout à fait.
Mais ça dépend, il faut voir comment la personne, elle, vit ses hallucinations au final. Mm-hmm. Hein? Fait que c'est...
faut s'adapter à elle au bout du compte. Mm-hmm. Puis les hallucinations, de ce que je comprends, elles peuvent arriver quand même tôt dans la maladie.
Oui.
Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en mesure de le nommer que c'est des hallucinations, qui disent « ben là, je vois un chat ». Nous, ça nous est arrivé, il y avait un monsieur au centre de jour, qui dit « ben là, je vois un chat en ce moment, j'ai vu un chat passer », puis là, il nous a regardé, puis il a dit « tu l'as pas vu, hein ».
Effectivement, mais la maladie à corps de Lewy, comme je disais, tu sais, en fait, c'est que selon les patients, l'arrivée des symptômes moteurs, cognitifs, les hallucinations vont pas toujours arriver dans la même séquence nécessairement, mais effectivement, tu sais, comme nous, en gérontopsychiatrie, quand on a un patient qui a des hallucinations, mais qui a pas de passé psychiatrique, on se questionne quand même d'emblée sur cette maladie-là, hein? Fait que, tu sais, la gérontopsychiatre, là, ses lunettes sont prêtes à regarder ça, parce que c'est sûr que, à part si on parle de quelqu'un qui a une schizophrénie au long cours, quelqu'un plus âgé qui a des hallucinations visuelles nouvelles, qui va s'accompagner de difficultés cognitives ou quelque chose comme ça, bien évidemment, on pense à ça en premier, mais oui, ça peut arriver tôt, puis au départ, les gens sont bien capables de nous les rapporter, là. Comme le monsieur dont je te parlais, tu sais, c'est mon bon chum, il vient me voir. Il me le disait, là, quand même. Là.
Puis, est-ce qu'il était en mesure de nommer que c'était pas vrai, que c'était pas réel?
L'autocritique fluctue, hein, des fois. Des fois, c'est comme, on a l'impression qu'ils savent que c'est pas vrai, mais d'autres fois, ça varie. Hein? L'autocritique, ça varie d'une personne à l'autre, parce que l'autocritique, on peut la considérer un peu comme parmi nos fonctions exécutives. Hein? Donc, c'est touché dans la maladie. Hein? Mais je dirais que moi, pour les patients maladie à corps de Lewy que j'ai vu, il y avait quand même une bonne autocritique au départ de leur maladie. Mais évidemment, après ça, quand ça évolue, on en a moins.
Oui, effectivement. Il y a un autre trouble dont on parle quand même assez régulièrement, nous, dans nos groupes. Puis c'est un trouble qui est quand même assez complexe au niveau de... au niveau social, le trouble frontotemporal, on en parlait un petit peu avant. Mais avant de partir là, je t'entends parler, puis tu nommes beaucoup troubles neurocognitifs, etc. À chaque fois qu'on a un professionnel de la santé ici, ou presque, le terme démence est un terme qui est nommé là, sans gêne. On comprend que dans le jargon médical, c'est un terme qui est très utilisé. T'es la première qui ne l'a pas utilisé encore en, je ne sais pas, moins 15 minutes. est-ce que tu peux expliquer un petit peu la différence entre la démence, pourquoi on essaie le moins possible de nommer la démence?
Oui. Bien, en fait, c'est que faut comprendre que, tu sais, les diagnostics, il y a ce qu'on appelle le DSM, là. Je dirais que c'est l'ouvrage de référence en termes de diagnostic. Auparavant, ce que moi, j'appelle un trouble neurocognitif majeur, c'était une démence. Je ne me suis pas encore échappée. Ça se peut que je m'échappe.
Non, c'est bien.
Ça se peut que je m'échappe, mais parce que, entre autres... démence à corps de Lewy, démence frontotemporale, c'est encore dans la recherche, c'est encore les termes qui sont utilisés. Donc, quand on lit sur la littérature là-dessus, c'est encore les termes utilisés. Donc, des fois, il y a ça aussi. Bon, maladie à corps de Lewy, ça commence à... mais tu sais, maladie frontotemporale, ça, je l'entends pas vraiment. Fait que de ça, il y a des choses que même si on veut bien changer, ça l'a pas encore changé. Dans le fond, démence réfère à trouble neurocognitif majeur, alors que le trouble neurocognitif mineur, auparavant, s'appelait le trouble cognitif léger. Fait que c'est juste des vieilles appellations qu'ils ont décidé de changer le terme pour que ça soit moins péjoratif. Parce que si vous parlez à des personnes plus âgées, ils vont me dire « Ah, tu sais, moi, ma mère, ma grand-mère est morte de démence. » Puis à cette époque-là, on se forçait pas trop à différencier les types de démence. Puis il faut comprendre que la population vieillissait pas assez vieille pour qu'on voit autant de types de démence qu'on voit maintenant. C'est un vieux terme qui peut revenir à la charge. Mais moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je m'efforce beaucoup d'utiliser le nouveau terme, hein, des troubles neurocognitifs, majeurs ou mineurs, dans mes rapports, quand je parle. Sauf que je me rends compte que des fois, ça fait pas le même écho aux familles que si on dit le mot démence. Hein?
C'est-tu plus positif? Pas positif, mais quel impact ça a?
Bien, c'est comme s'ils comprennent pas que c'est un diagnostic. Ils comprennent moins bien le diagnostic que ça veut dire. Hein? C'est comme si quand j'annonce un trouble neurocognitif, c'est comme si c'est moins grave que si j'avais annoncé une démence alors que j'annonce la même chose. Fait que je vous dirais que ça dépend. Tu sais, moi, ma pratique est quand même en ce qu'on pourrait appeler une région. donc, j'ai des gens peu scolarisés qui ont besoin qu'on simplifie, juste qu'on utilise des termes qu'ils connaissent. Fait que des fois, dans un but thérapeutique, qu'ils comprennent, hein, que la famille comprenne qu'est-ce qu'on retient, on n'a comme pas le choix de l'utiliser parce que ça l'évoque quelque chose pour les gens.
Je comprends.
Mais je comprends que, petit à petit, vaudrait mieux s'en débarrasser de ce terme-là parce que, bon, il est péjoratif, mais des fois, il nous est encore utile pour que les gens comprennent.
Comprennent bien l'ampleur du diagnostic.
Exactement.
Je comprends. C'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement songé que, justement, comme tu dis, pour peut-être les gens qui sont moins scolarisés, etc., je dois avouer qu'effectivement, trouble neurocognitif, ben, tu sais, un trouble, ça n'a pas le même impact qu'une maladie ou, effectivement, ça peut être... perçu différemment.
Ben en fait, c'est comme si moi, l'impression que ça me donnait, c'est que des fois, ils comprenaient pas vraiment la, ben, la gravité ou la sévérité ou le sérieux de la chose. Mm-hmm. Parce que c'est comme un long mot, trouble neurocognitif majeur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, fait
que,
tout à fait.
Mais tu sais, je vois encore dans des dossiers des gens pour qui c'est même pas encore clair. Puis tu sais, le DSM-5, ça fait quand même une couple d'années que c'est là. Mais fait que c'est de là que ça vient, le terme démence. Mais je pense qu'on va l'entendre encore, on va l'entendre encore un peu, là, mais...
On s'y habitue.
Oui,
mais
c'est
nous, en fait, nous, notre idée, c'est vraiment de... Parce que, comme tu l'as dit, c'est extrêmement péjoratif. Puis les gens ne savent pas nécessairement toujours démêler. Tu sais, il y en a qui... Moi, je me souviens que ma famille, par rapport à ma grand-mère, il y en a beaucoup qui disaient « Oh non, elle n'a pas la maladie d'Alzheimer, elle a une démence. »
Oui, exactement.
Elle fait la démence. Comme si c'était différent les deux. Au bout du compte, c'est la même chose. C'est une famille... Ben, un... comme tu disais, une pathologie de...
Ouais.
C'est de tenter souvent d'expliquer ça aux gens que c'est un peu la même chose au bout du compte, mais il y en a que ça rassure que ce soit une démence et que ce soit dû à la vieillesse, parce que peut-être que, de ce que je comprends, c'est que les gens pensent que la maladie d'Alzheimer, c'est très, très, très génétique, si on veut. Mm. Fait que c'est, ça peut être rassurant pour, par exemple, les enfants de dire, ben une démence, c'est en vieillissant, c'est plus... On a moins de chances de l'avoir, nous, que la maladie d'Alzheimer.
C'est pourtant... Une démence parce qu'elle vieillit, je veux dire, un vieillissement normal vient avec des changements cognitifs. Mm-hmm. Évidemment, le cerveau vieillit comme le reste du corps, mais ça ne vient pas avec une démence, le vieillissement. Fait que c'est là où je disais, à l'époque, on se cassait pas trop le coco à diagnostiquer les gens, mais la plupart devaient avoir une maladie d'Alzheimer au final. Ceux qui disaient, oh, ma grand-mère est morte de démence, elle est morte.
Ouais.
Tu sais, oh, c'est la vieillesse, elle oubliait tout. Mm-hmm. Ben, c'était probablement une maladie d'Alzheimer, mais on le disait pas à cette époque-là.
Ouais.
Mais moi aussi, je l'entends souvent, ah, oh, mais. Elle fait une démence, puis c'est pas la maladie d'Alzheimer, mais malheureusement, c'est pas toujours une bonne nouvelle, hein, parce
non.
que on n'en veut aucune.
C'est
de
pas moins pire.
Ben non, c'est ça. Fait que,
mm-hmm.
Mais effectivement, il y a de quoi encore à démystifier. Ben, puis je suis certaine que vous faites très bien le travail de faire ça.
Ben en fait, c'est la portée qu'on peut avoir. On n'a pas nécessairement la portée aussi grande qu'on peut avoir, mais. On essaie le plus possible de faire de semer des petites graines. Puis bon, ben si on revient au trouble frontotemporal, à la démence frontotemporale, comment ça se présente? Parce que c'est un trouble qui est quand même assez difficile de ce que j'en ai perçu et compris. Comment ça se présente dans les premiers symptômes?
Oui, là, c'est là où je vais dire démence frontotemporale.
Ouais,
probablement, je vais m'échapper parce que DFT, c'est quelque chose qu'on voit dans les dossiers médicaux beaucoup. Mais dans le fond, je veux pas compliquer trop les choses, mais la dégénérescence lobaire frontotemporale, c'est ça la pathologie, OK? Donc, ça, c'est la pathologie. Puis, on peut avoir plusieurs phénotypes, donc plusieurs manifestations de cette maladie-là qui est la dégénérescence lobaire frontotemporale. Dont la démence frontotemporale, le trouble frontotemporal auquel toi tu fais référence, qui est la variante qu'on dit comportementale.
Hein? Okay.
C'est ce que j'entendais quand tu dis c'est plus difficile. Donc, la variante comportementale de la démence frontotemporale se présente par un changement de comportement et de personnalité et un changement des fonctions exécutives.
Okay.
C'est très difficile à vivre pour les proches, ce type de trouble neurocognitif-là, parce que, dans le fond, c'est la maladie, qui n'est pas la même que la maladie d'Alzheimer, hein, si je reviens à ça, c'est une autre pathologie, s'installe dans nos lobes temporaux frontaux. Donc, c'est ces lobes-là qui sont très importants pour les fonctions exécutives que je décrivais tantôt.
Oui.
Donc, s'adapter à ce qui est nouveau, à ce qui est différent, à ce qui est compliqué. Donc, souvent, on va me dire, « Ouais, mais elle a pas de problème de mémoire, mais plus capable de faire à manger, plus capable de gérer son budget, ça fonctionne pas à la maison. » Puis ça, souvent, c'est quelque chose que j'explique. Quand c'est les fonctions exécutives qui sont touchées, ça paraît rapidement à la maison, parce que c'est l'organisation dans la vie de tous les jours. Alors qu'un trouble de mémoire, ça peut prendre plus de temps avant que ça ait vraiment un impact dans la vie de tous les jours. Alors que dans le trouble frontotemporal, variante comportementale, ben ça devient évident et souvent, ça accroche rapidement à la maison à cause de ça.
Mm-hmm.
Donc, on a ces troubles-là vraiment plus cognitifs, ce que moi, j'évalue, mais évidemment, variante comportementale, ça le dit, c'est des changements au niveau du comportement.
Ouais.
Donc, on peut voir de l'apathie. Les gens sont très apathiques, ne font plus grand-chose, ont besoin d'être stimulés énormément.
Ouais.
On peut voir ce qu'on appelle la désinhibition. Quand on n'a plus le frein, moi, c'est comme ça que je l'ai dit, on est supposé avoir un petit frein un frein qui nous dit « Oh, ça, c'est pas approprié de le dire ou de le faire. » Mais là, eux, ils perdent ce frein-là. Alors, on a des comportements qu'on appelle désinhibés. Donc, On peut penser à des gens qui disent des choses qu'ils n'auraient jamais dites avant, qui ont des comportements plus inappropriés en public. Donc, ça devient très difficile à vivre pour les proches, hein, parce que les proches sont honteux un peu. Là.
Tout à fait.
Hein, fait qu'ils vont avoir tendance à s'isoler, moins sortir à cause de ça. Parmi les autres changements au plan du comportement, on peut avoir ce qu'on appelle des comportements plus stéréotypés, répétitifs. Donc, les gens vont toujours faire la même chose de façon quasi obsessionnelle. On avait un monsieur qui ramassait les feuilles sur son terrain une à une.
Oh, wow!
Imaginez le temps. Mais une à une, puis ça, c'était comme, tu sais, c'est un comportement qui n'a pas d'utilité, qui n'a pas de productivité, hein? Donc, ils ont des comportements très répétitifs à cause, justement, qu'ils n'ont pas les fonctions exécutives pour changer de tâche, hein?
Je comprends.
Ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, de dire, ben là, il faudrait que je change de tâche, que j'alterne. Ben eux, ils l'ont plus, fait que ça reste collé. Hein? Okay. Un peu, ils persévèrent, qu'on appelle. Donc, ça va persévérer. Parmi les autres changements, on peut avoir des changements au plan alimentaire. Donc, manger beaucoup de sucre. Moi, j'ai des patients qui vivaient sur de la crème glacée, là, puis des biscuits. Ils mangent beaucoup de sucré. Ils deviennent très difficiles au plan alimentaire. Là, les familles vont nous dire qu'ils mangeaient tout avant.
Ouais.
Là, ils mangent tout le temps la même affaire de façon, encore une fois, rigide, routinière, répétitive.
Mais ça, est-ce que c'est unique au... Parce que je remarque dans les gens, tu sais, dans les gens que je rencontre et tout, je remarque que ça, manger beaucoup de sucre ou de devenir très difficile au niveau alimentaire, puis de pas vouloir... Ma grand-mère l'était, là, elle tassait son assiette puis elle prenait son petit dessert en premier, là. Est-ce que c'est commun ou... Bien, pas nécessairement général, mais est-ce que c'est commun à tout ou c'est vraiment particulier à ce trouble-là?
Bien, moi, à la connaissance que j'ai, c'est plus particulier aux troubles qui vont atteindre plus au niveau frontal, mais on parle de la démence frontotemporale, il y en a d'autres. Donc, moi, c'est un comportement qu'on va dire qui est un petit peu plus frontal.
Okay.
Ça, c'est comme très simplifié, là, mais qui est plus frontal parce que le frein est plus là. L'attrait du sucré, hein, notre cerveau aime le sucré. Là, hein, fait que c'est comme une drogue un peu. Fait qu'ils sont pas capables de changer parce qu'ils ont l'attrait du sucré. Puis en vieillissant, les personnes âgées aiment plus le sucré.
Oui.
mais c'est ça, fait que c'est plus propre à des gens qui ont une atteinte frontale, mais on peut retrouver une atteinte des fonctions exécutives dans plusieurs types de troubles neurocognitifs.
OK.
Hein, ce qui devient comme une rigidité, hein, donc manger toujours la même chose, faire toujours la même chose, hein, ils deviennent très routiniers avec des troubles neurocognitifs. C'est un mécanisme de défense de notre cerveau parce que vu qu'il y a moins de fonctions cognitives, ça demande moins d'énergie de faire toujours la même chose.
Je trouve ça super intéressant.
Hein, fait que c'est comme notre cerveau, puis on le dit d'ailleurs, miser sur les routines, ça va lui permettre de se préserver plus longtemps, ben c'est parce que ça demande moins d'énergie cognitive, ça demande moins de ressources cognitives. Ben oui, tu sais, quand on s'adapte, quand on change nos menus, quand on change nos activités, ben là, ça demande plein de fonctions cognitives de faire ça. Alors que si j'ai une routine, je deviens sur un mode automatique. Hein, sur le mode automatique, fait que souvent, tu sais, quand on dit on l'a changé de milieu, on l'a changé de résidence, oh mon Dieu, ça s'est empiré. C'est parce qu'on l'a sorti de sa routine qui lui donnait une certaine forme de fonctionnement qui ne demandait pas trop de ressources cognitives pour s'adapter.
Je comprends.
Hein? Fait que, puis pour revenir aux troubles frontotemporales, fait qu'on a parlé de l'alimentation, du comportement, il y a tout le volet social aussi, ce qu'on appelle la cognition sociale, qui est un regroupement de fonctions cognitives qui nous permettent de bien faire nos relations sociales. Hein? La cognition sociale, ça regroupe reconnaître les émotions, être capable de me mettre à ta place, de
l'empathie,
la mentalisation qu'on appelle, de inférer les états de l'autre. Hein?
Okay.
Elle a perdu un emploi, je me doute qu'elle est triste, qu'elle est déçue. Ben ça, la mentalisation, être capable d'inférer comment l'autre se sent ou qu'est-ce que l'autre peut penser, ben c'est touché aussi dans la variante comportementale, la démence frontotemporale.
Est-ce que ça fait partie de la même chose si, par exemple, il y a des gens qui viennent nous voir puis qui nous disent « Ah, ben moi, ma mère, elle s'intéresse plus. » Ben là, c'est un exemple, là, mais elle s'intéresse plus à nous, elle nous pose plus de questions sur mes enfants, elle me demande jamais comment je vais. C'est un peu dans le même concept.
Oui, c'est la réciprocité sociale, émotionnelle, tu sais, dans le sens où, mais moi aussi, je l'entends, puis c'est des fois, c'est ce qui va venir un petit peu... c'est sûr que ça, c'est très difficile à vivre pour
les proches.
Oui, ça fait partie de la cognition sociale. Puis, dans ce trouble neurocognitif-là, effectivement, le manque d'empathie, le manque d'intérêt pour l'autre, ça arrive quand même rapidement. Mal comprendre, ils finissent par des gens qui avaient un bon fonctionnement social vont mal comprendre les interactions sociales aussi. Ils vont mal interpréter, par exemple, une conversation. On a eu un exemple vraiment intéressant, puis c'était pas dans le cadre d'une variante comportementale de la démence frontotemporale, dans le cadre d'un autre trouble neurocognitif, mais qui donnait ce genre de trouble-là aussi. On venait de finir une rencontre familiale où on annonçait le diagnostic, puis la famille était là, la patiente était là. Et tu sais, ça l'a bien été, tout le monde était... T'sais, le monde était touché, triste, oui. évidemment, mais ça l'a bien été. Mm-hmm. Puis quand on l'a rencontrée après toute seule, elle a pensé que tout le monde était fâché. Hein? Fait que
elle avait mal perçu
l'émotion. Elle avait très mal perçu les émotions. Puis moi, j'en ai un test de ça où je fais la reconnaissance des émotions. Puis okay. effectivement, c'est une dame qui... c'était anormal là, comme mm-hmm. test et qui interprétait toujours la colère dans le visage des gens. Fait que okay. tu comprendras qu'elle, elle pense toujours que tu es en colère. Fait qu'elle...
C'est sûr qu'elle réagit, ben oui.
Elle est irritable, mm-hmm. elle est prompte, elle réagit beaucoup. Fait que c'est le genre de changement qu'on peut voir aussi.
On dirait que je fais des liens dans ma tête parce que, tu sais, oui, effectivement, on connaît un peu les troubles, mais en profondeur de cette façon-là, pas nécessairement. Puis il y a des gens qui nous arrivent, disaient, elle est tout le temps fâchée ou elle est rendue agressive. Ça, on l'entend quand même assez régulièrement, mais ça peut être, dans le fond, une raison pour laquelle la personne est un petit peu agressive parce qu'elle n'est pas capable de différencier les émotions de l'autre
oui,
qui est devant.
Oui, l'agressivité, l'irritabilité dans le déco mm-hmm. d'un trouble neurocognitif majeur peut avoir plusieurs sources, ouais. mais il y en a une que ça peut être de mal comprendre, mal percevoir, j'ai pas bien reconnu c'est quoi le contexte social, mm-hmm. mais des fois ça peut être aussi, c'est que quand le langage est touché par exemple, ils ont de la misère à s'exprimer adéquatement.
La difficulté au niveau de communication,
exactement,
effectivement.
Exactement, ça peut avoir tellement, mais tu sais, la cognition sociale, on en a besoin comme humain constamment, en ce moment on en a besoin, tu sais, on s'ajuste, ah t'as fini de parler, c'est à mon tour de parler, mm-hmm. mais bon, eux, quand ils n'ont plus ça, puis qu'en plus, ils ont d'autres troubles cognitifs, ça peut faire en sorte qu'au plan social, c'est difficile à vivre pour les proches, puis eux s'en rendent pas très compte, en général.
C'est souvent ça, c'est en fait, c'est de la nosognosie, ils se rendent pas nécessairement compte des pertes auxquelles ils font face, au bout du compte.
Non, puis quand ils ont des troubles de cognition sociale, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent blesser l'autre.
Oui, hein? parce que justement, ils n'ont pas cette espèce de capacité à comprendre puis à lire les émotions. C'est intéressant, ça. À travers tout ça, là, je vois le temps filer. On pourrait en parler là, longtemps. Je trouve ça super intéressant. Il y a aussi la maladie vasculaire, le trouble vasculaire, mm-hmm. la démence vasculaire qu'on entend aussi souvent. C'est quoi la différence entre la démence vasculaire et la maladie d'Alzheimer? Parce que des fois, j'ai l'impression que au niveau symptomatique, je comprends qu'au niveau pathologique, c'est différent. Au niveau symptomatique, il y a quand même des bonnes ressemblances.
Il y a des ressemblances, mais je dirais qu'en neuropsie, on est quand même assez aisément capable de les différencier. Mais je comprends qu'au quotidien, ça peut se ressembler. En fait, c'est que le trouble neurocognitif vasculaire, évidemment, ça veut dire qu'on a une atteinte cérébrovasculaire. Hein? Donc, mm-hmm. Les vaisseaux sanguins dans notre cerveau, il s'est passé quelque chose, mm-hmm. des AVC, mm-hmm. toutes sortes
un
de choses.
Un manque d'oxygène. Peuvent...
Exactement. Puis, la grosse différence, je dirais, c'est qu'un trouble neurocognitif vasculaire n'est pas dégénératif, comme une maladie d'Alzheimer. Hein? Okay. Une maladie d'Alzheimer, avec le temps, on sait que mm-hmm. ça va s'empirer, malheureusement. Ouais. Ça se détériore. Mm-hmm. Un trouble neurocognitif vasculaire, théoriquement, ce n'est pas neurodégénératif. Par contre, à chaque fois qu'on a un nouvel événement cérébrovasculaire, on le décrit plus en marche d'escalier.
Palier, ouais.
Hein, okay. En marche d'escalier. Donc ça, c'est quand même une différence importante parce que dans le temps, nos patients vasculaires, on peut dire qu'ils se maintiennent, qu'ils sont stables.
Ouais.
Hein? On peut avoir quelqu'un qui a des bons troubles cognitifs, mais qui va garder les mêmes troubles cognitifs pendant plusieurs années. Fait que je dirais que ça, c'est quand même une différence importante. Puis, dans le vasculaire, c'est plus des atteintes attentionnelles et exécutives aussi. Hein? Okay. Les fonctions exécutives. Donc, ils sont plus, par exemple, ralentis, ils vont avoir plus de misère avec, justement, l'inhibition, la flexibilité, l'organisation, la planification. Puis, c'est ces troubles-là qui ont un impact sur leur mémoire. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le type de trouble de mémoire est différent dans les deux. Mm-hmm. Dans la maladie d'Alzheimer, ce qui est typique, hein, c'est qu'on perd l'information. Hein? On n'enregistre plus la nouvelle information, on n'est pas capable d'apprendre la nouvelle information. Mm-hmm. Et avec le temps, malheureusement, on perd aussi l'information qui était là. Dans les troubles neurocognitifs vasculaires, ce qui est plus typique, c'est qu'à cause des troubles attentionnels, ils enregistrent mal l'information. Moi, j'ai tout le temps mes patients, si vous n'écoutez pas, vous vous en souviendrez
c'est
pas. Hein? Fait que l'encodage, qu'on appelle, est plus fragile parce qu'ils sont moins attentifs, ils ont plus de fluctuations à ce niveau-là.
Comprends.
Fait que, évidemment, si tu n'as pas enregistré l'information, tu ne t'en rappelleras pas. Mm-hmm. Et l'autre trouble qu'on a dans le vasculaire, c'est le trouble de récupération, se rappeler par eux-mêmes.
Okay.
Hein? Fait que quand on va leur dire « rappelez-moi les mots mm-hmm. que je vous ai fait apprendre », ils vont dire « je m'en souviens pas ». Mais dès qu'on leur donne un indice, eux, ils vont aller le retrouver.
Okay.
Hein? « Je vous ai fait apprendre un fruit. Ah oh oui, la banane.
Okay. »
Alors que dans la maladie d'Alzheimer, les indices ne les aident pas parce qu'ils sont juste plus capables de l'apprendre.
Mm-hmm.
Hein? Fait que
je
dirais que c'est là que ça se différencie. Puis les troubles neurocognitifs vasculaires, ils vont plus fluctuer aussi. Hein? Des fois, j'imagine, vous l'entendez, il y a des bonnes puis des moins bonnes journées. Ça, c'est plus... Ça peut être vrai dans la maladie d'Alzheimer aussi, mais je dirais mm-hmm. que c'est un petit peu plus typique de nos vasculaires.
Ce qu'on entend souvent, c'est... mais aujourd'hui, aujourd'hui, je suis allée, mais, par exemple, j'ai vu mon père, mais aujourd'hui, il avait vraiment pas l'air malade. Il se souvenait de tout, puis tout allait bien. T'sais, on n'aurait pas cru qu'il y ait un diagnostic. Ça, on l'entend souvent dans la maladie vasculaire ou le trouble vasculaire.
Bien, c'est parce que, dans le fond, des fois, je le dis comme ça, mais c'est que c'est en lien avec la circulation du sang dans ton cerveau. Fait que c'est comme si ta circulation du sang, des fois, ça se peut qu'elle aille bien, des fois, elle va pas bien, puis... Là, c'est une façon très imagée, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est ce qui fait que des fois, ils ont des bonnes puis des moins bonnes journées. C'est que probablement que l'oxygénation, l'apport en sang, quand on a, mettons, par exemple, l'hypertension artérielle ou en tout cas ce genre de choses-là, la santé vasculaire est très importante pour notre cerveau, mais ils ont un petit peu plus de fluctuations qu'une maladie d'Alzheimer qui va se ressembler généralement. Évidemment, ils peuvent avoir des moins bonnes journées, mais en général, ils se ressemblent plus d'une journée à l'autre. Le trouble de mémoire, il reste. Alors que dans le vasculaire, vu que c'est encodage ou récupération, bien, s'il était bien concentré quand tu lui as parlé, il va très bien s'en souvenir. Mais s'il n'était pas concentré pantoute quand tu en as parlé, il s'en souviendra pas. Hein? Fait que c'est ça la différence, je dirais. Puis on a moins d'atteinte au niveau des fonctions, plus comme la reconnaissance, le langage, puis tout ça dans les troubles vasculaires. Je dis pas, ça dépend là, si tu as un petit infarctus à la mauvaise place, ça se peut. Mais alors que dans le décours d'une maladie d'Alzheimer, on sait que là, ils vont perdre les mots éventuellement, ils vont avoir de la misère à reconnaître les choses éventuellement. Aussi, on s'attend moins à ça dans un trouble neurocognitif vasculaire.
OK. Puis, dans le fond, de ce que je comprends de tout ça, c'est que tu disais que c'est pas dégénératif. Ça veut dire qu'une personne qui a la maladie vasculaire peut évoluer avec ça quand même longtemps.
Oui, c'est juste qu'en général, c'est des gens qui ont des facteurs de risque vasculaire.
C'est vraiment au niveau de la santé physique à ce moment-là que ça va...
mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut dire qu'en prenant soin des facteurs de risque vasculaire, on peut prévenir ou du moins stabiliser. Préserver. Oui, exactement. Donc, je dirais que c'est quand même un petit peu plus un signe d'espoir là, quand c'est ça, parce que si on veut prévenir d'autres AVC, bien là, allez chez votre médecin, contrôlez bien votre pression artérielle, faites plus de sport, mangez mieux. On a comme quelque chose à faire, tu sais, dans le sens où on peut effectivement...
On peut agir sur les symptômes.
Exactement. Okay. Puis, tu sais, moi, mettons, dans mes recommandations, quand je retiens que c'est du vasculaire, bien, c'est automatique, je donne mes recommandations. C'est, là, à ce stade-ci, si vous contrôlez bien vos facteurs de risque vasculaire, on peut espérer que ça reste comme ça. Hein? Mais c'est sûr que même si on fait tout des fois, bon, si on est prompt à faire des AVC...
On n'est pas... Le risque zéro n'existe pas de toute manière.
Non, évidemment, évidemment. Mais effectivement, quelqu'un qui pourrait faire, par exemple, un AVC... bien se maintenir par la suite, pourrait rester stable avec le profil qu'il a au moment qu'on l'évalue.
OK. Ah, c'est intéressant, ça. Puis les gens qui ont la maladie mixte, dans le fond, qui ont les deux, c'est au niveau pathologique qu'il y a un peu d'AVC, mais il y a aussi des plaques amyloïdes à ce moment-là qui vont se présenter dans le cerveau.
Oui, c'est très, très fréquent. Là, des mixtes, on peut penser que c'est quasiment la majorité des gens. Là.
Okay.
De plus en plus, on se rend compte dans les études que tout ça, qu'on aime bien trouver un diagnostic, mais au final, le cerveau, souvent, il y en a plusieurs. Les mixtes, c'est qu'on sait qu'il y a une maladie d'Alzheimer avérée. Bon, il y a les critères diagnostiques, on voit dans le cerveau ce qu'il y a à voir, mais on voit qu'il y a aussi la présence de maladies cérébrovasculaires, puis ça va venir faire en sorte que, alors que dans une maladie d'Alzheimer en début d'évolution, j'ai pas nécessairement de troubles attentionnels, là, on peut en avoir parce qu'il y a du vasculaire aussi en même temps. Hein? Fait que ça vient comme un peu teinter le tableau, pas nécessairement de la bonne façon, là, au sens que là, ça peut faire en sorte que c'est exacerbé un petit peu. Là.
Je comprends. Puis à travers tout ça, j'essaie de passer, ça a l'air pas décousu, mais là, on essaie de passer au suivant, à celui que... auquel on n'entend vraiment pas souvent parler. Ma mère m'en a parlé dernièrement parce que son cousin, sa conjointe, a le trouble. On parle d'atrophie cortico-basale. J'essaie de retrouver mon information. Versus le syndrome cortico-basal versus l'atrophie corticale postérieure, c'est ça? Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que pour certains, ça peut paraître quand même assez similaire ou du moins de la même...
Je pense que c'est les mots qui sont similaires parce que c'est des troubles très différents. Mais les mots sont similaires, fait que, mettons, je vais le décortiquer. L'atrophie corticale postérieure, la CP, dans le fond, sa pathologie la plus fréquente, parce que encore une fois, c'est un syndrome.
Ouais.
L'atrophie corticale postérieure, c'est un syndrome. Faut aller trouver c'est quoi la maladie en dessous. 80% du temps, c'est une maladie d'Alzheimer qui s'est installée de façon atypique. Hein? La maladie d'Alzheimer, on parle beaucoup de la version typique amnésique, les troubles de mémoire, mais on sait qu'il y a des variantes atypiques. Et l'atrophie corticale postérieure, ça en est une. Donc, la maladie d'Alzheimer va s'être installée à un endroit un peu différent dans le cerveau. Puis les premiers signes, en fait, c'est que les gens, au lieu d'avoir des troubles de mémoire, ils ont des troubles visuo-perceptuels puis visuo-spatiaux. Mm-hmm. Assez importants. Donc, par exemple, ils vont mal percevoir les objets, ils vont mal percevoir les distances. Ils vont souvent se plaindre d'avoir de la misère à lire. Puis, en fait, c'est assez typique pour les patients qui ont une atrophie corticale postérieure de d'abord consulter en optométrie, en ophtalmologie, parce qu'ils vont se plaindre. Voyons, mes yeux ne voient pas bien. Il me semble que j'ai de la misère à lire. Puis, ils vont se plaindre de leurs yeux, mais l'optométriste ou l'ophtalmo va dire que votre vision est correcte. Mm-hmm. Hein? Fait que ça veut dire que ce n'est pas l'œil, ce n'est pas sensoriel. Ce n'est pas l'œil qui a un problème, c'est le cerveau quand il l'interprète.
OK, c'est vraiment le traitement de l'information.
Oui, exactement. Okay. Donc, c'est pas un problème sensoriel, c'est vraiment parce que la maladie s'est installée dans ces régions-là du cerveau qui servent à traiter les informations visuelles. Puis, typiquement, ben, c'est ça, les gens, ça peut faire en sorte qu'ils ont aussi de la misère à écrire parce qu'ils sont pas capables de respecter l'espace entre les lettres. Ils vont écrire toute une table. Là, je donne des exemples comme ça, mais dans ceux que j'ai vus, il y avait ça. Ils vont chercher des objets qui sont sous leurs yeux, mais pas les reconnaître. Mm-hmm. Évidemment, la conduite auto, c'est vraiment pas compatible avec ça, hein? On peut deviner. Donc, ils vont avoir de la misère à tenir leur voix. Ils peuvent avoir plus d'incidents d'accrochage parce qu'ils perçoivent mal leur environnement. Ils vont faire des erreurs de reconnaissance. Par exemple, prendre un chien pour une moufette ou ce genre de choses-là. Donc, c'est quand même particulier. Puis, c'est que ça commence comme ça. Éventuellement, ces patients-là, vu que c'est une pathologie Alzheimer, vont développer des troubles de mémoire. Mais au départ, c'est très, très spécifique au visuo-perceptuel. Okay. Puis, les impacts au quotidien sont tous liés à ça.
À la vision, OK.
Fait que, mettons, quand il cuisine, il fait plus de dégâts. Mm-hmm. Le monsieur que j'avais vu, moi, sa madame, s'était rendu qu'il mettait juste une chose devant lui parce qu'il percevait mal qu'est-ce qu'il avait à manger, qu'est-ce qu'il pouvait prendre, puis tout ça. Fait que ça, c'est pour l'atrophie corticale postérieure. Donc... le syndrome cortico-basal, encore une fois, un syndrome qui est généralement dû à ce qu'on appelle la dégénérescence cortico-basale, qui est une maladie, qui est une pathologie, qui, elle, se présente avec des troubles praxiques en premier. Okay. Hein, des troubles praxiques, là, c'est très vague, mais les praxies, si je peux le résumer, c'est un peu la mémoire des mouvements de notre cerveau. Hein, donc, la capacité, par exemple, à s'habiller, la capacité à attacher des lacets, la capacité à faire du vélo. En tout cas, tout ça demande des praxies.
Ouais.
Le syndrome cortico-basal, donc, ça se présente souvent asymétrique. Donc, d'un côté, la personne va avoir une apraxie d'un membre qui va générer, je dirais, une maladresse. Hein? Ça va atteindre les gestes même élémentaires. Ils vont devenir maladroits, ils vont avoir de la misère à réaliser des gestes.
Mm-hmm.
Puis, c'est juste d'un côté, au départ, il y a des présentations qui sont pas... Mais la grande majorité, là, je vous parle de ce qui est plus prototypique, ça va être d'un côté. Puis, éventuellement, le syndrome cortico-basal, malheureusement, c'est pas une évolution tellement charmante. Parce que justement, c'est le corps, c'est le corps qui perd de ses habiletés. Donc, il faisait partie de ce qu'on appelait les Parkinson plus à une certaine époque. Fait que ça peut aider les gens à se faire une image, c'est qu'il a des troubles plus moteurs aussi, mais il y a aussi des troubles cognitifs là, qui vont s'ajouter. Mais au départ, les gens vont plus se plaindre...
Au niveau physique.
Exactement. Mais ça vient là, avec des troubles cognitifs aussi qui sont plus complexes un petit peu, là, qu'on va évaluer en neuropsy, mais qu'on évalue moins là, dans les autres. Mais ça peut venir avec des problèmes au niveau du langage aussi, le syndrome cortico-basal, une dysarthrie, une difficulté à prononcer. Hein, ils vont s'accrocher dans leur bouche, ils vont s'accrocher en parlant. Donc, ça peut être une sorte aussi de syndrome cortico-basal, d'avoir plus une difficulté au niveau langagière. Puis, ils peuvent avoir, en tout cas, toutes sortes d'autres... Mais c'est pas la mémoire, hein? C'est ça qu'on peut... C'est pas la mémoire, mais c'est pas vraiment mieux, tu sais.
Non, c'est ça. Mais éventuellement, la mémoire va...
Bien, en fait, toutes nos... Genre, j'écoutais des conférences, ils ont toutes la même finalité.
Ouais.
Hein? Ils ont toutes la même finalité parce que ce qui va différencier les profils au départ, c'est où la maladie s'installe. Mais éventuellement, vu que c'est des maladies neurodégénératives, ben, ils vont s'installer partout.
Ouais, ça va finir fait que,
C'est pour ça que le... Plus on les voit tôt, plus on est capable de donner un vrai bon diagnostic. Mais quand on est rendu avancé en maladie, même en neuropsy, c'est très difficile de départager quoi qui est quoi.
Je comprends. Hein?
Parce que la personne n'a plus assez de fonctions cognitives pour voir ce qui est préservé. Ouais.
Bien, souvent, c'est dans le fond, quand la personne va chercher le diagnostic plus tard, c'est là que ça devient complexe d'avoir le diagnostic. Fait que c'est peut-être... Est-ce que... tu sauras peut-être me confirmer, mais est-ce que c'est pour ça que souvent, les gens diagnostiquent la maladie d'Alzheimer sans nécessairement aller précisément dans quel syndrome parce que, justement, on est rendu... Les gens, souvent, vont pas aller chercher le diagnostic tôt parce qu'il y a de quoi... Il y a quelque chose d'épeurant là-dedans. Il y a quelque chose de très stressant. Les gens veulent pas savoir, ce qui fait en sorte qu'ils retardent. Puis à un moment donné, ils reçoivent un diagnostic de trouble de mémoire.
Ouais.
peut-être que ça s'est présenté différemment au début, mais qu'on ne le sait pas au bout du compte.
Exactement. Est-ce que c'était une présentation atypique de la maladie d'Alzheimer, mais que là, au moment qu'il consulte, elle est devenue typique?
Oui,
tu sais, à le rattraper, l'évolution typique, parce que ça fait plusieurs années. Il faut dire aussi que ça demeure le trouble neurocognitif le plus prévalent, la maladie d'Alzheimer. Donc, des fois, quand on n'est pas certain, on peut y aller avec une sorte de probabilité, hein, avec l'âge de la personne, avec sa présentation clinique. C'est comme si on fait la probabilité que le plus probable, c'est une maladie d'Alzheimer, parce que justement, tu sais, à un certain point, même si on voudrait le différencier puis qu'on les envoie en neuropsy, même si on est capable de faire beaucoup, quand ils sont trop cognitivement avancés, ben on se bute aux mêmes obstacles, parce que, tu sais, la façon qu'on travaille, c'est de faire des tests cognitifs, faire des tests à la personne, mais quand la personne a des gros troubles cognitifs, on peut en faire un peu, mais je suis pas capable de faire une grosse batterie qui me permettrait d'aller chercher de façon très spécifique tel processus versus tel processus. Donc, effectivement, à un certain point qu'on est avancé, mais je crois que maintenant, on est de plus en plus, on est capable d'aller les chercher de plus en plus tôt.
Oui. Puis on le nomme, justement, les gens sont de plus en plus intéressés à aller chercher le diagnostic tôt pour voir s'il n'y a pas, justement, quelque chose à faire avec ça. T'sais, est-ce qu'on peut, comme tu disais tantôt, essayer de... de ralentir le processus, d'essayer de stabiliser l'évolution de la maladie. Fait que c'est pour ça que les gens vont de plus en plus chercher. Puis ils vont essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe.
Bien, puis, tu sais, avoir un diagnostic à l'heure actuelle, on peut se poser la question, mais tu sais, ça donne quoi au final? On n'a pas de médicaments pour les guérir, mais de savoir, par exemple, que quelqu'un a une démence à corps de Lewy, tu vois, je viens de m'échapper, une maladie à corps de Lewy, au lieu d'une maladie d'Alzheimer, bien, ça peut nous aider à préparer la famille à l'évolution. Ouais. Hein? Bien, il va avoir de la misère à marcher, fait que peut-être que vous devriez ajuster votre maison. Ou ils vont en avoir des hallucinations visuelles, inquiétez-vous pas. Ou c'est la même chose avec la variante comportementale de la démence frontotemporale, de les avertir que effectivement au plan social ça va devenir difficile, mais essayez de sortir quand même, expliquez-le aux gens autour de vous que c'est pas de sa faute, hein, que c'est une maladie puis tout ça. Fait que moi j'y crois beaucoup à quand les gens comprennent, ça l'aide. Moi j'y crois beaucoup, évidemment. Fait que moi, le diagnostic, peu importe c'est qui, je trouve ça important qu'on le dise, juste pour les préparer. Puis dans des questions encore plus grandes que ça, c'est que quand tu le sais, par exemple, on peut avoir d'autres maladies. Hein? C'est pas parce qu'on a un trouble neurocognitif qu'on notre corps il continue à suivre, mais de savoir c'est quoi la maladie qu'il y a dans notre cerveau pour prendre les décisions sur, par exemple, un traitement pour le cancer. Hein, t'sais, parce que on peut recevoir un genre de diagnostic où là, il faut prendre une décision. C'est quoi le traitement? Je vais jusqu'où? On me propose des chirurgies, on me propose... Mais là, je sais que j'ai telle maladie dans mon cerveau qui va m'amener vers ça. Fait que moi, je trouve ça très important qu'on le dise, même si, malheureusement, on ne le guérit pas. Mais je trouve que pour préparer les familles, préparer la réflexion, préparer leur maison, préparer leur papier, je trouve que c'est important.
Ben oui, tout à fait. Puis ce qu'on dit souvent, c'est que la meilleure façon d'accompagner quelqu'un, la première étape, c'est de comprendre puis d'apprendre sur la maladie. Donc si on sait c'est quoi, si on sait qu'est-ce qui va, sans nécessairement savoir tout ce qui va arriver précisément, si au moins on a une idée de vers quoi on s'en va, ben ça va nous aider effectivement à bien se préparer. Là.
Puis avec une éval neuropsy, tu sais, moi, vu que je suis capable d'aller chercher les forces, puis ce qui est préservé, ce qui n'est pas préservé, ben je vais dire aux familles, ben là, c'est ses fonctions exécutives qui sont touchées, fait qu'il faut que vous soyez son chef d'orchestre. Hein? Faut que vous l'aidiez à s'organiser, mais un coup qui est organisé, il est encore capable d'exécuter des choses. Hein? Mais demandez-y pas de faire une soupe du début à la fin. Demandez-y de couper les patates. Non, mais tu sais, c'est vraiment très concret là, ce que je dis, mais en ayant un profil neuropsy, ben c'est ça que moi, ça me permet de faire. C'est sûr que j'aide au diagnostic, tout ça, mais au-delà du diagnostic, je peux aller voir c'est quoi qui est encore préservé puis sur quoi on peut miser.
Hein? Je comprends.
Sur quoi la famille peut miser, puis expliquer, ne serait-ce qu'expliquer les fonctions exécutives ou la cognition sociale, ça fait du bien des fois. Fait que je dirais que c'est un des rôles des neuropsies aussi là, qu'on a.
Mais ça permet aussi aux gens de mieux réagir face au comportement ou aux symptômes qui apparaissent, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que justement, quand les gens ne comprennent pas trop, souvent sont plus réactifs, ils ont plus de misère un peu avec les comportements qui sont plus déroutants ou déstabilisants. Donc, de le savoir, de comprendre, effectivement, de se le faire expliquer, ça facilite énormément les choses.
Bien, évidemment, puis même pour la conduite automobile, on sait comment c'est un sujet sensible avec les troubles neurocognitifs, puis c'est jamais un plaisir. C'est jamais un plaisir de dire que quelqu'un perd ce privilège-là. Hein? Mm-hmm. C'est une liberté, c'est l'autonomie, c'est tellement de choses. Surtout moi, où je pratique, les gens n'ont pas de transport en commun. Mm-hmm. Fait que c'est compliqué, mais quand je prends le temps d'expliquer que votre cerveau perçoit mal les distances, vous pourriez être sur le trottoir, puis votre cerveau vous dit que vous êtes dans la route. Ou votre cerveau ne sera pas capable de réagir à un enfant qui court devant vous, à une chevreuil qui passe sur l'autoroute, parce qu'il n'y a, plus réactions-là. Fait que je pense pas que ça rend ça vraiment plus facile, mais je pense que ça aide les familles à comprendre pourquoi on va vers là, même si ça fait pas plaisir, les gens ont des réactions, sont fâchés. Bon, on essaye qu'ils se fâchent pas, mais évidemment, que ça, on a le droit d'être fâchés.
Ben oui, tout à fait.
On a le droit d'être fâchés, mais ne serait-ce que de comprendre que c'est pas juste d'enlever un permis pour enlever un permis, c'est d'expliquer...
La raison. Pourquoi. Oui, je comprends. Puis là, je vois le temps passer. Il y avait un dernier point qu'on voulait vraiment parler. On a parlé un petit peu au début, on a abordé vaguement le sujet, mais on parle un peu, tu travailles aussi en psychiatrie.
Oui.
Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de la comorbidité entre les troubles neurocognitifs puis les troubles de santé mentale, parce qu'il y en a.
Oui.
Mais à quel point, ça, je pense qu'on ne le sait pas.
Bien, en fait... je dirais qu'il y a plusieurs volets à cette question-là. J'ai pas de chiffres pour ça. Mais on sait que l'anxiété ou la dépression, ça peut être en fait un des premiers symptômes d'un trouble neurocognitif, ce qu'on appelle le prodrome. Donc, les patients vont avoir de l'anxiété, de la dépression, alors qu'ils en ont probablement pas eu avant, qui n'ont pas d'antécédents nécessairement pour ça. Puis c'est un peu comme une réaction du cerveau. Hein? C'est un peu comme une réaction du cerveau à soit je me rends compte que je gère plus comme avant. J'ai pas la même... T'sais, on le sait, on se connaît. Les gens, quand ils commencent à percevoir que leurs capacités sont plus tout à fait les mêmes, ils s'en aperçoivent des fois avant que les autres s'en aperçoivent. Ouais. Ça peut générer de l'anxiété parce que c'est comme, moi, des fois, la façon que de l'anxiété ou de la dépression, mais c'est comme si là, ils se rendent compte que les exigences de l'environnement commencent à dépasser leurs capacités. Ça peut générer beaucoup d'anxiété puis de la dépression.
Tout à fait.
Fait que des fois, puis tu sais, c'est un peu la poule ou l'œuf. Est-ce que je suis anxieuse parce que j'ai des troubles cognitifs ou l'anxiété était l'annonciatrice un peu de mes troubles cognitifs? C'est difficile des fois à départager, mais on peut voir ça vraiment là, au moment, tu sais, dans les... Ben nous, typiquement, en gérontopsychiatrie, souvent, les gens vont être référés d'abord pour tableau anxio-dépressif. Évidemment, c'est très important de le traiter en premier. Parce que dépression particulièrement, auparavant, ils l'appelaient la pseudo-démence, mais une dépression chez une personne âgée donne des troubles de mémoire. Donc, ça peut mimer une maladie d'Alzheimer. Donc, la première étape, c'est consulter son médecin de famille, consulter un gérontopsychiatre, un psychiatre, pour s'assurer de traiter la dépression ou l'anxiété. Parce qu'évidemment, quand on est très anxieux, on n'a pas accès à nos ressources cognitives. On a tous déjà été anxieux, bloqués, bien raides. Bien, c'est la même chose. Fait que c'est important d'adresser ça. Mais parfois, on va se rendre compte que ces patients-là, on traite la dépression ou l'anxiété, mais ils demeurent avec des troubles cognitifs. Puis c'est là qu'on s'en va vers un diagnostic de troubles neurocognitifs. Donc, c'est quand même assez fréquent que ça peut être une entrée en maladie. Comme une réaction. Moi, je le vois comme une réaction de notre cerveau. Il se fait attaquer, dans le fond, là, notre cerveau. Là. C'est le même cerveau.
Fait qu'il se défend.
La dépression, l'anxiété, là, c'est les mêmes structures que notre capacité à se concentrer puis à décider. Fait que c'est sûr que le fait que le cerveau est attaqué, il réagit d'une certaine façon. Puis, comme je disais, ça peut être aussi notre perception de « Oh boy, ça ne fonctionne pas comme ça fonctionnait.
»
Puis là, évidemment, tout le monde a peur de faire une maladie d'Alzheimer.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose d'anxiogène là-dedans.
Vraiment. Fait qu'il y a ça. Ensuite de ça, ben c'est sûr que nos patients qui ont des troubles psychiatriques plus sévères, je dirais schizophrénie, troubles bipolaires, ont un facteur de risque.
Qui est plus élevé que...
Un petit peu, bien, c'est dans le sens où, évidemment, c'est que souvent, tu sais, tout est dans tout, là, dans le sens où, si tu as un trouble de santé mentale sévère, bien, souvent, tu as eu un moins bon fonctionnement. Puis on sait que, dans la réserve cognitive, ce qui nous protège, il y a d'avoir plus d'éducation, d'avoir travaillé, d'avoir une famille, d'avoir des contacts sociaux, bien manger, bonne hygiène de vie. Bien, des patients qui ont des troubles psychiatriques plus sévères, souvent, bien, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Mais tu sais, fait que ces gens-là, dans le décours de leur maladie psychiatrique en vieillissant, c'est sûr que rapidement, vu qu'il y avait déjà des faiblesses, ben, ils ont des troubles cognitifs qui apparaissent plus rapidement. Mais c'est pas toujours un trouble neurocognitif neurodégénératif. Des fois, c'est vraiment leur maladie qui vieillit. Mais des fois, non. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, effectivement, on peut en retrouver. Puis, tu sais, mettons, si je pense à une maladie à corps de Lewy où on retrouve des hallucinations, bien, des fois, ça peut s'accompagner d'idées délirantes. On essaye de faire du sens de ce qu'on voit.
Ben oui.
Hein? J'essaye de m'expliquer ce que je vois, donc mm-hmm. je deviens avec des idées qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas sur la réalité. Donc, on peut voir ça, hein, les idées délirantes dans le décours des troubles neurocognitifs, là, ce qu'on appelle les symptômes comportementaux psychologiques de la démence, les SCPD. Dans les démences qui sont plus avancées, mm-hmm. On peut retrouver ce genre de symptômes-là, plus psychotiques, hein, qu'on mm-hmm. appelle. Là, fait que, effectivement, c'est dans plusieurs... Puis, tu sais, il y en a comme la maladie à Cordeley-Oui, bien, ça fait partie des critères diagnostiques, hein, les hallucinations. Fait que, tu sais, même dans la maladie de Parkinson aussi, plus d'anxiété, plus de dépression. Mm-hmm. Évidemment, c'est les deux plus fréquents, anxiété, dépression, mais on peut retrouver là, aussi de l'irritabilité, évidemment. Mm-hmm. Là, ils vivent plein de changements.
Ben oui, tout à fait. Fait que c'est pour ça que des fois, ça peut être difficile à partager. On se rend compte qu'il y a certaines personnes qui vont consulter, puis au début, c'est ils consultent pour une dépression, puis finalement, ils se rendent compte que ben ils reçoivent un diagnostic de la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble cognitif là, connexe. Mm. C'est pas rare que, justement, on en voit des gens qui ont des symptômes dépressifs, qui ont un trouble neurocognitif, ou des gens qui ont déjà fait des dépressions dans le passé, qui développent éventuellement là, un trouble cognitif. Ça, c'est très... ça le dit que c'est un facteur de risque.
Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Puis, tu sais, on ne sait pas tout, là. Pourquoi non. on développe une maladie d'Alzheimer? Pourquoi on développe une démence frontotemporale? On ne sait pas tout ça, mais on sait que tout ce qui a fragilisé le cerveau nous rend plus fragiles au vieillissement normal ou anormal ou atypique, mm-hmm. tu sais, dans le fond. Fait que... Mais oui, puis c'est vraiment important, puis... Quand on a des symptômes anxio-dépressifs, il ne faut pas se dire que ça va passer, il faut consulter. Mm-hmm. Ouais. Faut consulter parce que ça, il y a quelque chose à faire. T'sais.
Oui, c'est ça.
Il y a quelque chose à faire, on peut aider à... Tu sais, ne serait-ce... On va pas... Moi, j'ai eu une dame récemment tellement anxieuse, là, tellement mm-hmm. anxieuse, puis tu sais, on a retenu une maladie d'Alzheimer, mais la détresse anxieuse qu'elle avait, bien, on peut ça essayer de diminuer sa détresse anxieuse.
Ouais.
On ne guérira pas sa maladie d'Alzheimer, mais au moins que l'anxiété prenne moins de place, soit moins envahissante pour que les fonctions cognitives qui restent, bien, elles soient capables de... à soit capable de les utiliser, parce que mm-hmm. quand on est anxieux comme ça, on n'a pas accès à nos capacités, là. Hein? On est figé.
Ça m'amène à te poser la question, est-ce que les gens qui ont des troubles neurocognitifs peuvent être... Est-ce que c'est possible de faire des thérapies quand on a un trouble neurocognitif?
C'est une bonne question. je dirais que ça dépend vraiment de l'atteinte cognitive.
Ouais.
Hein? Évidemment, pour faire une psychothérapie, ça prend des fonctions cognitives, ça prend de la mentalisation, ça mm-hmm. prend du raisonnement, ça prend de la mémoire, parce qu'on s'entend-tu que normalement, une thérapie d'une semaine à l'autre...
Mm-hmm. Hein, on est censé évoluer.
Exactement. Donc, c'est sûr que si j'ai un trouble mnésique important puis que mm-hmm. je me souviens pas d'une rencontre à Londres, je risque de pas évoluer.
Ouais.
Mais, tu sais, tout est un bémol dans la vie. Dans le sens mm-hmm. qu'il y a des gens qui ont des diagnostics de maladie d'Alzheimer très tôt, qui ont un très bon fonctionnement antérieur, donc qui ont beaucoup de fonctions qui sont préservées, qui mm-hmm. pourraient en faire. Fait que c'est pas jamais, mais c'est sûr que ça peut être un frein.
Un frein, hein, je comprends.
T'sais, comme par exemple une maladie frontotemporale, bien évidemment, tu comprendras que c'est plus compliqué.
Oui,
hein?
Tout à fait.
Mais ceci étant dit, on devrait les écouter quand même, hein, d'une autre façon. C'est juste d'une autre façon.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr qu'une psychothérapie, au sens d'une psychothérapie comme on se le figure, de voir le psychologue ou l'autre mm-hmm. ou un thérapeute autre chaque semaine. Puis
c'est plus complexe.
C'est plus complexe, puis c'est que ça leur demande beaucoup aussi. Une heure de thérapie, une heure à parler comme on fait en ce moment, c'est très exigeant au plan cognitif, mm-hmm. hein, parce que là, on écoute, on réfléchit, on pense à ce qu'on va dire. Fait que mm-hmm. c'est sûr que ça peut être peut-être trop exigeant, mais... Comme je dis, il y a des patients qui, en début d'évolution, pourraient vraiment bénéficier de mm-hmm. ça.
Est-ce qu'il y en a des psychothérapeutes cliniques qui se spécialisent
là-dedans? C'est une très bonne question. Moi, j'en connais pas.
Oui, ça se fait que ce soit plus rare.
Oui, mais j'en connais pas. On n'a pas beaucoup de psychologues en gériatrie, dans le fond. C'est beaucoup les neuropsies, mm-hmm. ben, parce qu'on aide au diagnostic. Puis je pense que c'est notre place aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. J'ose croire qu'il y en a, mais il y en a moins.
Je comprends. Je te remercie énormément, Eva, pour toute l'information que tu nous as donnée. On pourrait faire une partie 2 s'il fallait. est-ce qu'on peut... en fait, toi, si on veut te consulter, il faut passer par la base.
Oui, au public, ça prend une référence par un médecin. Puis que là, les médecins de l'hôpital me demandent en consultation. Là, et, fait que c'est plus compliqué au public, mais c'est... C'est mon domaine de pratique que j'affectionne particulièrement. Fait que non, on ne peut pas me consulter directement.
Ça se ressent que tu affectionnes ça particulièrement. Mm. Je te remercie beaucoup. Je remercie tout le monde, en fait, d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux troubles neurocognitifs, je vous invite à visiter notre site web, la société Alzheimer de Québec.com. Le salon Alzheimer est bientôt, le 28 janvier. Je vous invite à visiter le site web de la société ou du salon Alzheimer pour avoir plus plus d'informations. Donc, merci beaucoup.